Politique, économie, consommation israélienne, l'analyse et l'expertise de Yael Ifra.
Bonsoir Yael.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver sur les ondes de Cannes en français. On va parler un peu comme chaque année du panier de Pessah. Et vous avez pas mal de choses à nous dire. On va pas parler que de ça, mais on va parler des prix en général. Alors, on s'éloigne un petit peu de l'Iran, du Moyen-Orient, de tous ces problèmes qui forcément sont tous intrinsèquement reliés les uns aux autres. Mais c'est quelque chose qui va directement affecter nos portefeuilles. Alors, on vous écoute. Qu'est-ce qui se passe cette année dans mon caddie et dans mon portefeuille?
Exactement, Yael. Ben, c'est une chronique que je fais tous les ans depuis des années sur Cannes. Hein, mm-hmm. Et donc, il y a une espèce de petit côté un peu routinier, sauf que ben, je voudrais rappeler que cette année, ce n'est pas un Pessah comme les autres, parce que dans beaucoup de familles, on n'aura ni l'humeur, ni vraiment le budget à faire un grand céder.
Oh, oui.
Il y a aussi 60 000 personnes, donc de nombreuses familles qui ne pourront pas fêter Pessah chez eux parce qu'ils ont été déplacés. Et puis, il y a ceux qui sont endeuillés ou ceux qui ont quelqu'un dans leur famille qui est otage. Alors, tout ça doit être remis en perspective. Mais ce qui est certain, Yael, c'est que par contre, pour les grandes enseignes et pour les supermarchés, tout va bien, la vie continue et je dirais même que les caisses sont bien remplies d'espèces sonnantes et trébuchantes puisqu'on assiste cette année à un festival de hausse des prix qui est assez spectaculaire. Et donc je me suis basée pour cette analyse sur la plus grande analyse de panier parce qu'il y en a plusieurs, hein, mais généralement celle qui est la plus sérieuse et la plus fiable, c'est celle que fait la journaliste conso Shoshana Ren du journal Yediot Ahronot. Et donc cette année, elle a fait comme d'habitude une analyse basée sur pratiquement tous les supermarchés avec un panier qui contient 350 produits. Et après, je vous ferai une petite remarque sur ce fameux panier. Et donc beaucoup de comparaisons par rapport à l'année dernière. Je commence, pour ne pas faire un grand suspense, par la liste des supermarchés. Et après, je vous ferai quelques remarques assez courtes. Donc premier, très 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 serré, hein. C'est Rami Lévy, comme tous les ans. Donc Rami Lévy réussit à maintenir sa première place, même si son panier a légèrement augmenté, un peu plus de 2% depuis l'année dernière. Tout de suite derrière, mais vraiment collé, on trouve Ocherade, ce qui n'a pas toujours été le cas.
Oui, je me rappelle donc que vous nous aviez expliqué ça, que ce n'était pas forcément le cas. Oui.
Une bonne performance de Ocherade cette année. Tout de suite derrière, Khatsikhinam. Puis Marsané à Chouk, mais là après je vais vous expliquer que tout n'est pas aussi fiable dans cette liste. Et en cinquième, Yohananov. Donc je vous informe, hein, donc pour tous ceux qui continuent à faire leurs courses chez Shufersal, que Shufersal fait partie des magasins les plus chers. Quant à Carrefour, la journaliste Shoshana Ren fait bien remarquer que les performances des produits marques distributeurs de Carrefour sont excellents et que Carrefour est un des seuls supermarchés qui vend un peu moins cher que l'année dernière, mais il n'a pas encore les performances prix que peuvent avoir les mastodontes comme Rami Lévy et Ocherade. Alors, ce que fait remarquer la journaliste Shoshana Ren, c'est que cette année, c'est particulièrement difficile pour les consommateurs en raison de la volatilité des prix. En fait, elle explique que les supermarchés se sont livrés à des tours de passe-passe incroyables pour essayer d'être bien classés dans le panier parce qu'ils savent à peu près quand les journalistes passent et font les relevés de prix. Et qu'en particulier, donc Marsané à Souk s'est arrangé pour être extrêmement bien placé alors qu'en fait, il est beaucoup plus cher que ça. Et donc, elle dit que ben elle ne peut pas ne pas le mettre à cette place-là parce que bon ben, c'est les prix qui sont sortis, mais qu'en gros, quasiment le lendemain, les prix ont augmenté énormément à Marsané à Souk et donc elle fait une allusion très très lourde au fait qu'il ne faut pas y aller. Elle dit aussi que cette année, il y a énormément de fausses promotions ou de non-promotions, qu'il y a beaucoup de shrinkflation, hein, donc vous savez, c'est ces emballages qui diminuent de façon magique alors même que le prix ne bouge pas et que ben, les consommateurs sont fatigués, ils sont en état de guerre, ils sont angoissés et donc ils auront moins la tête à comparer, à sortir la calculette comme moi je le fais des fois pour vérifier des prix au kilo. Donc être prudent dans la mesure du possible et sinon effectivement aller faire ses courses dans les supermarchés les mieux classés. Pour vous donner 2-3 indices, si vous êtes une famille qui mange beaucoup de fruits et de légumes, alors ça vaut le coup d'aller plutôt chez Rami Lévy parce que c'est là-bas que les prix sont les plus intéressants ou chez Victory. Si vous achetez plus de produits...
Mais la qualité, excusez-moi, parce que c'est très important les fruits et les légumes, mais est-ce que la qualité est la même que dans...
Pas forcément, d'accord. Mais après, il y a un problème de budget aussi. Ouais. Donc là, elle s'intéresse surtout au coût. C'est assez inégal, mais vous avez raison. Que dit-elle ? Oui, bah, on parle de l'huile d'olive, évidemment, des augmentations délirantes de prix. Ouais. Donc, j'en ai parlé dans ma newsletter, puisque maintenant, j'ai une newsletter qui sort toutes les deux semaines. J'invite
que
d'ailleurs,
j'en suis profite absolument. Elle, hein. Ah ouais,
voilà, ouais. J'en profite pour dire aux nos auditeurs qui sont intéressés qu'ils peuvent s'abonner sur mes réseaux sociaux. Et donc, j'analyse pourquoi l'huile d'olive est devenue si chère. Mais alors là, on a des augmentations du simple au double sur certains éléments. Et ce que je voudrais dire aussi, Yaël, c'est assez intéressant parce que j'ai lu en entier tout cet article et à la fin, Shoshana Khan explique comment elle a composé son panier et elle donne des conseils pour faire les courses de Pessah. Et là, elle donne les quantités qu'elle conseille d'acheter pour une famille, 5 personnes, hein, donc pas une famille très très grande, hein, donc papa, maman, 3 enfants, on va dire ça comme ça, pour les 8 jours de Pessah. Et ce sont des quantités, mais inouïes. C'est-à-dire que j'ai eu vraiment, j'ai regardé 3-4 fois, je me suis dit, j'ai dû mal lire.
C'est-à-dire ?
Donc, c'est-à-dire qu'elle conseille, par exemple, d'acheter pour une semaine, hein, 20 kilos de fruits et de légumes, plus 16 kilos de pommes de terre, plus 160 œufs, plus 10 kilos de viande, 32 litres de boissons, 20 kilos de produits de base, farine de matzah, fécule de pommes de terre, etc., 4 kilos de dessert, 3 kilos de noix et d'amandes. Elle estime que c'est une quantité normale. J'ai compté, ça fait 100 kilos de nourriture pour 5 personnes pour 8 jours. Alors, je comprends bien que c'est fête et qu'on a de l'appétit, mais j'y ai vu quand même...
20 kilos par personne pour 7 jours, 7 fois 3, 21, ça fait 3 kilos de nourriture par jour. C'est vrai qu'effectivement, surtout quand on a des enfants, ne serait-ce qu'en termes de,
de
poids corporel, c'est bizarre. Comme...
Et c'est énorme.
Alors comment vous expliquez quel effet ça ?
C'est la culture israélienne qui est suracheter. Hein. Je vous rappelle qu'il y a elle, en Israël, 30% de la nourriture achetée et produite va à la poubelle. Nous sommes un pays qui est champion du monde du gâchis alimentaire. Et derrière, on va distribuer des colis alimentaires à des gens qui n'ont pas assez à manger. Donc, on se rend compte que les normes ne sont pas du tout les normes que l'on devrait appliquer pour rester en bonne santé, ne pas être en surpoids et ne pas gâcher. J'ai été restauratrice pendant de nombreuses années. Je suis une professionnelle de l'alimentation et je peux vous dire que c'est beaucoup trop. Enfin, l'idée d'acheter 160 œufs pour une semaine pour une famille de 5 personnes. Enfin, je veux dire, on fait la cuisine, on a des enfants, on voit très bien de quoi il s'agit. C'est complètement délirant. Donc, il faut essayer aussi, en même temps, avec les fêtes, de penser un petit peu à ne pas surconsommer, d'acheter au plus juste, de racheter s'il le faut, de ne pas jeter, d'essayer d'utiliser les restes, de ne pas acheter trop de produits. Et là, je le dis avec mon bon sens, hein. On peut se passer de pâtes pendant une semaine. Je vous assure que le paquet de pâtes à 20 shekels fait avec du riz et je ne sais quelle matière agglomérante pour essayer d'obtenir un effet pâte n'est pas nécessaire. On n'est pas obligé de manger du pain de Pessah. C'est 8 jours. Si on respecte la fête, on s'en sort très très bien avec plus de fruits, plus de légumes, plus de salades. Alors oui, bien sûr, on mange beaucoup de pommes de terre. Hein, voilà. Mais c'est comme ça. Et en tout cas, on n'a sûrement pas besoin d'acheter 100 kilos de nourriture pour une famille de 5 personnes. Ça, c'était la première chose. Voilà, donc ce que je voudrais dire, Yaël, c'est que en lisant tous ces articles...
Non mais j'imagine le caddie avec la personne qui revient avec 100 kilos de bouffe pour une semaine et on trouve que moi j'achète trop. Mais bon, ok.
Voilà, ouais. Ça rentre même pas dans le frigo.
Bah non.
Et alors, en même temps que tout ça, eh bien, le gouvernement a jugé bon de nous annoncer pour tout de suite après la fête de Pessah une augmentation de plus de 5% de tous les produits laitiers supervisés. Donc, rappelons qu'ils ont déjà augmenté l'hiver dernier et l'été d'avant. C'est donc la troisième augmentation en un an. Je crois au total, si je ne me trompe pas, c'est plus de 15% d'augmentation. C'est le rattrapage hein, de ce qui n'avait pas été augmenté l'année dernière, on en avait parlé. Mais on se retrouve dans une situation où en Israël, aujourd'hui, alors qu'on est en état de guerre, alors que les gens sont angoissés, sont stressés, aussi bien les grandes enseignes que les fournisseurs, que les importateurs profitent de la situation pour augmenter les prix de façon scandaleuse. Si on regarde 2 ans en arrière, Yaël, on vient de subir coup sur coup des vagues d'augmentation tous les 2-3 mois. C'est ou Strauss, ou c'est Osem, ou c'est Diplomate, ou c'est Shestovich, ou c'est Strauss, enfin j'en sais rien, qui annonce des augmentations massives de prix, comme je l'ai déjà fait remarquer. Ça n'existe pas en France d'avoir une société comme Danone ou comme Lu qui va dire qu'elle augmente tous ses produits. Ça n'arrive pas. Deuxièmement, Il faut comprendre que le consommateur israélien est complètement prisonnier puisqu'il y a énormément de monopoles, hein, je le rappelle à chaque fois, mais il faut rappeler que le monopole, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Je rappelle ensuite, en dernier lieu, que le contexte international, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, n'est absolument pas ne vient absolument pas justifier ces augmentations de prix. Le prix de la plus grande partie des matières premières dans le monde est en baisse depuis déjà plus d'un an, sauf peut-être pour le cacao et l'huile d'olive. Le transport maritime a baissé, sauf pour l'Asie d'extrême, l'extrême Asie. Donc on n'importe comme produits alimentaires que par exemple le thon, les sauces soja, des choses comme ça. Mais tout le reste vient généralement d'Europe. Et donc cette flambée des prix est totalement cynique. Elle exploite le fait que les consommateurs israéliens sont angoissés. Les marques n'ont pas peur que les gens achètent moins ou arrêtent d'acheter, puisqu'ils savent que tout le monde stocke en ce moment parce qu'on a peur, parce que la situation est instable, parce que c'est la guerre. Et donc, on en profite de façon totalement scandaleuse pour augmenter les prix. Le gouvernement ne fait strictement rien. Nous avons un ministre des Finances qui a dû partir en vacances, à mon avis, parce qu'il ne fait rien. Un ministre de l'économie...
Il s'est fait réprimander aujourd'hui. Ouais.
À coller des stickers noirs sur des étiquettes au lieu d'utiliser les compétences de régulateur que la loi lui donne. Et la situation est tout bonnement mais révoltante, Yael. Je le dis depuis des années, mais là, on est arrivé à un stade où exploiter en fait le malheur, le stress, l'angoisse de toute une population pour augmenter les prix alors même que les difficultés économiques sont très très grandes, il faut vraiment pousser un grand cri et arrêter de se faire arnaquer et donc ne pas acheter 100 kilos de nourriture pour 8 jours de fête.
Alors déjà, ne pas acheter 100 kilos de nourriture pour 6 jours de fête, mais qu'est-ce que le gouvernement fait rien à part ça enfin, je veux dire, il n'y a personne qui va venir faire quelque chose, dire quelque chose on n'est pas dans l'urgence, c'est quoi ?
En fait, non, c'est tout simplement que tout le monde s'en fiche complètement, sauf évidemment les consommateurs qui ne sont donc pas organisés. Tant qu'on n'est pas organisé en groupe de pression, on ne peut rien obtenir. Et c'est vrai que je suis un peu déçue de voir qu'on n'entend pas du tout Guy Lehrer qui en a fait son cheval de bataille. J'ai l'impression que les gens pensent que ce n'est pas patriotique de critiquer Strauss, qui est une multinationale, donc qui gagne son argent partout dans le monde, que ce n'est pas patriotique de critiquer Tnuva, qui est une société chinoise cotée en bourse, ou que ce n'est pas patriotique de critiquer OSEM qui appartient au groupe Nestlé. Donc je le rappelle, ce sont des sociétés multinationales qui gagnent de l'argent dans tous les pays, mais particulièrement en Israël. Donc si elles se montraient un petit peu plus patriotiques, elles feraient peut-être un effort pour aider les citoyens israéliens qui sont enfermés dans le pays, en état de guerre, avec des problématiques quand même qui sont, je pense, assez lourdes, quand on se prend l'attaque de missiles et de drones, la plus grande de l'histoire militaire du monde sur la tête. On pourrait imaginer que quelqu'un se dise que il faudrait quand même penser aux citoyens qui sont aussi des familles, qui ont aussi des enfants, qui ont aussi un porte-monnaie qui est très lourdement taxé. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Donc je ne vois pas pourquoi personne ne fait rien. Je n'attends pas grand-chose de ministres qui, comme je vous le dis, passent leur temps à brandir des boîtes avec des étiquettes dessus au lieu de regarder les textes de loi qui leur permettraient de réglementer le marché. On peut bloquer les prix, on peut obliger les entreprises à faire des tas de choses. Il faut encore faut-il vouloir affronter les monopoles, ne pas penser à son prochain job, ne pas se dire que plus tard, ça serait bien d'être copain avec Ofra Strauss parce que peut-être qu'on sera plus ministre. C'est un peu comme ça que ça fonctionne en Israël. Quant à défendre les citoyens et les consommateurs et les familles, personne n'y pense. Donc, il faut prendre les choses en main, je le dis, Yael, en permanence.
Ça fait des années que vous nous le dites, Yael.
Voter avec les pieds, ne pas acheter le minimum, bien entendu, il faut bien qu'on mange, on est bien d'accord. Essayer de faire les bons choix et surtout être conscient que notre heure viendra. L'heure des citoyens, des consommateurs finira par venir. Il faut simplement tout bien garder en tête. Comme on dit en hébreu, vous savez, on dit que le petit carnet, il est ouvert, Yael.
Oula.
Alors nous, on a le petit carnet ouvert et on note.
Yael Ephra, merci beaucoup pour cette analyse. Et puis, malgré tout, des fêtes de Pessah bonnes, je ne sais pas. Calme, en tout cas, je vous le souhaite.
Exactement, et paisible. Merci beaucoup, Yael.
À très bientôt, Yael.